Vous écoutez un podcast de l'Académie saison 4 proposé par le Mouvement des entreprises de France. Pour toute question liée à cet enregistrement, rendez-vous sur le site l'academiemedef.fr. Bon podcast à toutes et à tous.
Bonjour à tous. Donc on va se relier avec Karine pour vous faire cette introduction au rapport de durabilité. Et on voulait commencer par des préliminaires sur la montée en puissance et l'avènement d'un rapport RSE. Alors, un bref rappel sur la RSE, a priori, si vous êtes là, c'est que le sujet vous intéresse. La RSE, c'est donc la responsabilité sociétale des entreprises. Et c'est défini par la Commission européenne comme l'intégration volontaire par les entreprises de préoccupations sociales et environnementales à leur activité commerciale et leur relation avec les parties prenantes. On considère en général que donc la RSE, c'est la contribution des entreprises aux enjeux du développement durable, aux objectifs et de développement durable. Le contenu de la RSE a été précisé, on va dire, et plus détaillé par une norme internationale reconnue, la norme ISO 26000. Cette norme ISO, elle s'articule principalement autour de sept questions centrales, les sept questions que vous voyez sur la marguerite. Donc autour de la gouvernance de l'organisation, six autres questions importantes, les relations, les conditions de travail et l'environnement, la loyauté des pratiques, les questions relatives aux consommateurs, les communautés de développement local et les droits de l'homme. Et sur ces sept questions, on applique sept grands principes de RSE, que sont la redevabilité, c'est-à-dire le fait d'avoir à répondre de ses impacts sur la société et sur l'environnement, la transparence, comportement éthique, la reconnaissance des intérêts des parties prenantes, la reconnaissance du principe de l'égalité, la prise en compte des normes internationales et le respect des droits de l'homme. La RSE, c'est donc avant tout une stratégie et une politique volontaire de l'entreprise. Pour autant, on a eu une montée en puissance des obligations légales et réglementaires en matière de reporting sur les informations ESG, donc relatives à l'environnement, au social et à la gouvernance des entreprises. Là, on vous a fait un petit panorama qui part de 2001 avec la loi NRE qui impose aux entreprises cotées d'indiquer dans leur rapport annuel une série d'informations qui vont être relatives aux conséquences sociales et environnementales de leur activité. C'est les prémices d'un rapport, de durabilité. Progressivement, cette obligation va être renforcée avec la loi Grenelle 2, notamment en 2010. On a mis tout le détail à l'écran. Puis progressivement avec d'autres lois comme la loi de la transition énergétique pour la croissance verte. Jusqu'arrivé en 2017, je vous passe un peu tous les détails, à ce qu'on connaît aujourd'hui, c'est-à-dire la DPEF, la déclaration de performance extra-financière, qui s'applique à certaines grandes entreprises ou groupes et qui est encore en vigueur aujourd'hui, qui était la transposition de la directive, d'une directive de 2014. À côté de ça, on a eu en plus des obligations qui se sont renforcées sur le reporting sans être formellement intégrées dans le reporting DPEF, même si les informations sont reprises, comme par exemple, la création de l'index d'égalité professionnelle créé en 2018 par la loi Avenir professionnel. Aujourd'hui, donc, le système dans lequel on est, c'est la DPEF, la déclaration de performance extra-financière des grandes entreprises. L'objectif, c'est d'avoir un outil de pilotage stratégique de l'entreprise pour avoir, au-delà des informations financières, les informations qui pourraient avoir un impact sur cette société et sur ses parties prenantes. Aujourd'hui, la DPEF, donc, elle vise surtout les grandes entreprises, principalement les sociétés anonymes, lorsque leur chiffre d'affaires dépasse les seuils suivants qui sont indiqués dans votre écran sur le cadre droit. Donc 20 millions de bilans, 40 millions de chiffres d'affaires et 500 personnes pour une société cotée. Et pour les sociétés non cotées, on est toujours à 500 personnes, mais les seuils sont rehaussés à 100 millions de bilans, 100 millions de chiffres d'affaires. Alors, je poursuis, je voulais être sûre que vous voyez bien les slides. La DPEF, en fait, elle contient des informations en social, en environnement, des informations relatives à la lutte contre la corruption et des informations relatives aux droits de l'homme. On vous a mis quelques exemples d'éléments. Elle est insérée dans le rapport de gestion. Elle doit être publiée sur le site internet de la société. Elle fait également l'objet d'un contrôle. En lien, on vous a mis le cinquième bilan réalisé en partenariat avec EY et Deloitte sur le bilan annuel des PEF des grandes sociétés. La difficulté, c'est que cette DPEF, elle vise un nombre de sociétés très restreint avec les seuils que vous avez vus précédemment. Et donc, on a quand même une demande croissante de demandes d'informations sur les piliers ESG adressés aux entreprises. Notamment, ces demandes, elles émanent d'une part des investisseurs qui en ont besoin pour prendre leurs propres décisions d'investissement et établir leur propre stratégie RSE. Il y a également les agences de notation extra-financière. Les agences de notation extra-financière vont évaluer cette performance extra-financière, soit pour le compte d'investisseurs qui vont chercher à investir en fonction de ces critères-là, soit pour les partenaires de la chaîne de valeur des clients et des fournisseurs qui veulent avoir une appréciation de la performance extra-financière de leur relation d'affaires. Il y a aussi une demande croissante des ONG, avec souvent une optique qui peut être un peu de mise en accusation. On a aussi des demandes de l'administration et des collectivités territoriales, notamment dans le cadre de leurs appels d'offres, donc des marchés publics, des concessions, parfois aussi des aides publiques disponibles allouées au niveau territorial. Et puis surtout, une demande même de la société civile en général, avec, comme plusieurs études l'ont souligné ces dernières années, une attention accrue des plus jeunes salariés, on va dire, qui ont un engagement RSE plus fort et qui vont plus être attentifs à ces engagements-là des sociétés pour choisir éventuellement leur futur emploi. Et tout ça fait qu'on arrive donc à une modification de cette DPEF qui a été actée par la CSRD et c'est donc ce qu'on vous explique maintenant. Je vais passer la parole à Karine qui va vous expliquer qui est concerné par ce nouveau rapport qui viendra donc remplacer la DPEF à partir de l'année prochaine, rapport 2025 sur 2024.
Merci Émilie, bonjour à tous. Alors, effectivement, on va s'arrêter maintenant sur les personnes concernées et le calendrier progressif d'entrée en vigueur de ce nouveau reporting de durabilité. Donc, dès l'exercice 2024, avec donc une publication d'un rapport en 2025, ce seront toutes les grandes entreprises cotées qui font déjà aujourd'hui une DPEF, comme l'a rappelé Émilie, qui devront passer à ce nouveau reporting de durabilité, avec un seuil de 500 salariés et au moins un des deux seuils de bilan et de chiffre d'affaires à 20 millions et 40 millions d'euros. Ça peut être aussi en consolidé au niveau du groupe qu'on atteint les chiffres soit de 500 salariés toujours et 24 millions ou 48 millions d'euros de bilan et de chiffre d'affaires. À partir de l'exercice 2025 qui sera publié en 2026, c'est le champ d'application global de la nouvelle directive qui va s'appliquer, avec toutes les grandes entreprises qui sont définies au niveau européen, qui sont en réalité pas si grandes que ça, puisqu'on est au-dessus de 250 salariés, avec un total de bilan de 20 millions, 40 millions de chiffre d'affaires, et cette fois, c'est peu importe deux des trois seuils. Si on les franchit, on doit publier ce reporting. Et de la même manière, un groupe d'entreprises qui les franchirait en seuil consolidé, doit publier un rapport de groupe. Ça vise toutes les sociétés par action. Donc là, on a un élargissement aussi au niveau des entités juridiques, puisque le choix français de la DPEF avait été fait de ne pas viser les SAS ou les SARL. Ce ne sera plus le cas. Donc ça fait quand même beaucoup de nouvelles entreprises entre la baisse du seuil en effectif et l'élargissement des entités juridiques qui vont rentrer dans cette obligation de reporting à partir de l'exercice 2025. Pour l'exercice 2026, on ajoute les PME cotées sur un marché réglementé, donc celles qui sont en dessous des seuils mais qui sont cotées. Et enfin, pour l'exercice 2028, on ajoute des entreprises qui sont filiales de groupes hors Europe. Donc ça, c'est une nouveauté aussi importante pour essayer d'avoir des règles qui soient équitables pour toutes les entreprises. On vous a remis ici les seuils des entreprises concernées.
Donc, si je comprends
Super.
bien, pardon, Karine, j'en profite, on a une petite question. Donc, un groupe de 1600 personnes non cotées, on est dans la deuxième colonne,
Voilà,
c'est
c'est
ça.
pour être à peu près clair, puisque tu as trouvé effectivement 1600 personnes, bon ben, sauf si vraiment il y avait un total bilan à chiffre d'affaires très bas, on est dans la deuxième colonne.
D'accord. Et ensuite, donc, toutes les PME ne seront pas concernées.
Non, les PME sont cotées seulement seront concernées et on va y revenir plus en détail très rapidement derrière. On va venir aussi sur les filiales. Donc, un petit zoom d'un instant sur le cas des groupes parce que ça peut avoir son importance pour certaines entreprises. On a toujours la possibilité d'être dispensé parce qu'on appartient à un groupe et que la société mère publie un rapport consolidé. Dès lors que je suis intégrée dans le rapport d'un groupe, je n'ai pas moi-même à publier un rapport de durabilité. La seule nouveauté, c'est que si vraiment j'ai des risques spécifiques, par exemple j'ai une activité très différente de celle de mon groupe et il y a des risques importants au niveau environnementaux, alors, il devra y avoir un petit focus dans le rapport sur ces risques et ces incidences particuliers à cette filiale ou à ces filiales s'il y a plusieurs cas. La deuxième différence, c'est que si la filiale est à la fois une grande entreprise, donc elle dépasse les seuils qu'on a rappelés là dans la deuxième colonne, et qu'elle est cotée, alors elle ne peut pas bénéficier de l'exemption. Elle doit publier, en plus de sa mère et du groupe, son propre reporting de durabilité. Alors, les statistiques que certains attendaient, j'ai vu dans le chat, donc environ 50 000 entreprises en Europe, c'est toujours un petit peu difficile hein, de faire des chiffrages comme ce sont des critères croisés. Ces chiffres sont quand même à prendre avec précaution. En tout cas, ils sont souvent mis en avant par la Commission européenne notamment. On serait autour de 7 500, enfin moins de 10 000 en tout cas en France. Et actuellement, il y a une discussion au niveau de la Commission européenne pour rehausser les seuils de la directive comptable, qui sont ceux qui s'appliquent à ce reporting de durabilité, pour tenir compte de l'inflation. Ces seuils doivent être régulièrement révisés pour tenir compte de l'inflation. C'est prévu dans la directive. La directive comptable est une directive très ancienne. Ils ont été révisés plusieurs fois. Et là, depuis 2013, comme il n'y avait pas beaucoup d'inflation, on ne les a pas bougés. La Commission propose de le faire, ce qui amène à quand même rehausser de quasiment 25% des différents seuils. On vous a mis à droite ceux qui seraient retenus si la proposition de la Commission va jusqu'au bout. Ça permettrait quand même de faire sortir les plus petites de cette catégorie de grandes entreprises que nous, en France, on considère comme des ETI, pas du tout comme des grandes entreprises, en fait. Alors, comme effectivement il y a beaucoup de questions sur le sort des PME, on a essayé de bien reclarifier les choses. La première chose à retenir, c'est que l'obligation en tant que telle de publier une CSRD, elle ne s'applique pas aux PME, à l'exception des PME cotées sur un marché réglementé. Et ça, on sait qu'elles ne sont pas très très nombreuses. Les autres PME n'ont pas à publier de reporting de durabilité. Pour autant, elles en entendent beaucoup parler et elles peuvent être concernées indirectement. Pourquoi? D'une part, parce qu'elles appartiennent à la chaîne de valeur de grands groupes concernés par ce reporting qui peuvent du coup leur demander des informations. C'est déjà le cas aujourd'hui pour, par exemple, des bilans de gaz à effet de serre quand on est sous-traitant d'un groupe qui publie lui-même un bilan de gaz à effet de serre. Il y a aussi des possibilités de questionnaires qui émanent de la part des financeurs. Les acteurs financiers doivent faire un reporting de durabilité. Donc, dans ce cadre-là, ils peuvent poser des questions aux PME qui reviennent à leur demander un certain nombre d'informations qui seraient comprises dans leur reporting de durabilité si elles en faisaient un. Mais ce n'est quand même pas du tout la même chose que d'être assujetti à ce reporting dans son entièreté. Pour faire face à ces besoins, la Commission européenne prépare, avec l'aide du normalisateur européen en matière non financière, donc l'EFRAG, des normes pour les PME, pour essayer de trouver un socle commun d'informations qui pourrait servir tous ces besoins et permettre aux PME de faire un exercice avec le meilleur rapport entre l'effort fait et l'utilité pour répondre à ces différentes demandes.
Et est-ce que tu sais quand est-ce que ça sera, enfin, est-ce qu'il y a une échéance pour...
Pour ces normes PME, il va y avoir une consultation publique, probablement quelque part en décembre, à laquelle le MEDEF participera. Et donc, plus on aura de PME et d'entreprises qui nous diront comment elles voient ce projet de norme, et plus on réussira à faire des propositions constructives pour que ça réponde vraiment à vos besoins. Et ensuite, il y a à peu près une année de process juridique avant que ça puisse être disponible.
Et je pense que cette information est bien accueillie par certains participants. Donc, en effet, si, moi, je comprends bien, hein, Karine, il y a vraiment une distinction. Certaines, les sous-traitants qui sont en dessous de ces seuils n'ont pas à publier de rapport, mais à transmettre des informations.
Je vois une remarque tout à fait pertinente dans le chat, hein. Tu as appuyé sur le mot publié, Gauthier, tu as raison. C'est pas du tout la même obligation pour les PME que de constater qu'elles peuvent faire ce rapport avec cette norme allégée pour avoir les informations prêtes et les donner à ceux qui lui réclament, que ce soit un donneur d'ordre ou un financeur, que de devoir le publier. Et ça veut dire que ce ne sera pas non plus les mêmes obligations de faire quelque chose de complet. On pourra beaucoup plus faire les choses à la carte, alors que là, le reporting de durabilité, ben, il faut fournir tout ce qui est demandé, y compris des informations qu'on peut peut-être avoir du mal à collecter ou à produire. Alors, je vais repasser la parole à Émilie qui va vous expliquer, pour ceux qui doivent faire le rapport de durabilité, ce qu'il doit contenir.
Merci Karine. En bref, on voulait vous rappeler d'abord les grandes lignes à retenir de ce nouveau rapport. Ce rapport, il est d'abord intégré dans le rapport de gestion et vérifié de la même façon. Et il contient toutes les informations sur les facteurs, donc ESG, qui sont importants pour l'entreprise. Quand on dit important pour l'entreprise, c'est ce dont vous avez dû entendre parler, le filtre de la double matérialité sur ces facteurs-là. Déterminer ce qui est important pour l'entreprise, c'est ça. Et ce rapport, il est rédigé en étant fondé sur des informations qui sont standardisées au niveau européen. C'est ce qu'on appelle les ESRS, qui incluent des indicateurs précis. Ce qui est aussi important de noter, et on va revenir un petit peu plus tard, c'est que pour faire cette analyse de qu'est-ce qui est important ou qu'est-ce qui est matériel pour l'entreprise, il faudra prendre en compte les impacts sur l'ensemble de la chaîne de valeur et à des échelles ou des horizons de temps différents. Donc les standards de durabilité européens, donc ESRS c'est le sigle en anglais, il se décompose en plusieurs parties. La première partie, c'est ce qu'on appelle les 7 transsectoriels. C'est ceux qui ont été adoptés le 31 juillet dernier, qui sont en cours de validation, puisqu'on est maintenant dans une phase où la Commission a adopté ces standards, mais le Parlement et le Conseil ont une phase pendant laquelle ils peuvent s'y opposer. À partir de ces 12 standards transsectoriels, qui sont pour lesquels le travail est fini a priori, justement, l'EFRAG est en train d'élaborer une version simplifiée pour les PME, en distinguant d'une part les PME cotées, qui elles ont une obligation de reporting et devront faire un rapport, et puis les autres entreprises qui ne sont pas soumises, donc on parle souvent de PME volontaires, qui est un standard encore plus simplifié que celui des PME cotées. Donc là, actuellement, on travaille dessus et on en reviendra un peu plus loin dans notre exposé. À côté de ces éléments qui sont des éléments transsectoriels, donc qui s'appliquent à toutes les entreprises, Il y a aussi des sets de standards qui sont sectoriels en fonction des secteurs d'activité concernés. Ces standards sectoriels s'ajouteront aux standards transsectoriels. Il y a 41 standards qui avaient été définis comme étant à faire. Et pour une entreprise, elle devra donc appliquer chacun des standards sectoriels qui s'appliquera à un secteur qui sera significatif pour son activité et donc probablement qui représente une part importante de son chiffre d'affaires. À ces standards sectoriels, l'entreprise peut ajouter des indicateurs spécifiques, comme elle a pu les développer notamment antérieurement, notamment pour celle qui réalisait la DPOE. Ce qui est visé quand même, c'est qu'a priori, une fois que l'ensemble des standards seront développés, on attend une baisse de ces indicateurs spécifiques, puisque peut-être qu'actuellement, ils viennent compenser une absence de standards sectoriels. Les indicateurs spécifiques à l'entité, ils devront quand même respecter les caractéristiques des indicateurs tels qu'ils sont fixés par les ESRS transsectoriels. Alors là, je vous ai fait un focus sur justement les standards transverses, donc ceux adoptés par acte délégué 31 juillet 2023, et on attend leur approbation au final le 21 décembre plus tard. Ils se composent de deux parties schématiquement. Une première partie, c'est les normes transverses. On a d'abord l'ESRS 1, c'est les principes généraux, et donc là, ça liste l'architecture, les principes qui s'appliquent justement aux standards de durabilité. Puis après, on a une deuxième partie des ESRS 2 qui vont détailler les informations que les entreprises doivent présenter avec les sujets qui sont considérés comme matériels ou importants pour elles. Schématiquement, on va couvrir quatre types d'informations: la gouvernance de l'entreprise, sa stratégie, son processus d'identification et de gestion des incidences, risques et opportunités, les IRO, et puis les indicateurs et les objectifs pour suivre tout cela. Et ensuite, on va décliner dans 10 normes thématiques, 5 en environnement, 4 en social et 1 en gouvernance, des informations plus spécifiques qui sont à fournir justement les incidences, les risques et les opportunités liées à ces thématiques-là. Je voulais revenir sur quelques notions clés justement de l'ESRS 1, c'est-à-dire des notions qu'on va utiliser pour comprendre ce que sont les autres ESRS. Et là, je vous ai fait un focus sur trois notions. La première notion à gauche, c'est la notion de chaîne de valeur. Pour bien comprendre, en fait, qu'on demande aux entreprises, lorsqu'elles font leur analyse de matérialité, de regarder dans la chaîne de valeur si ça a un impact sur ces questions-là. Par contre, dans le reporting, les indicateurs vont plus être centrés sur le périmètre même du reporting. Avec quelques exceptions, celles que vous connaissez tous, je pense, c'est peut-être le scope 3 du bilan de gaz à effet de serre, c'est un bon exemple où là, l'indicateur il va dépasser le cadre strict de l'entreprise qui fait son reporting. Encadré à droite en bas, je vous ai mis les horizons de temps, puisqu'en fait, il faut considérer les horizons de temps qui peuvent être différents de l'horizon financier. Mais grosso modo, sauf exception, on a trois échelles de temps. Le court terme, donc c'est inférieur à un an, c'est sur l'année, moyen terme à 5 ans ou long terme au-delà de 5 ans, avec des ajustements selon les thématiques. Typiquement pour le climat, on vous demande de vous projeter sur 2030 et 2050. Et enfin, la dernière notion dont je vais vous parler, c'était l'incorporation par référence, puisque en fait, tout au long des standards, on va vous réclamer certaines informations. Certaines informations sont déjà fournies par ailleurs dans d'autres rapports. Pour une liste limitative qui est comprise donc au chapitre 9 de l'ESRS 1, vous pouvez faire un renvoi à ces documents en précisant que les informations sont dans les documents suivants. Et ça comprend notamment toutes les informations qui seraient contenues dans une autre section du rapport de gestion, la déclaration sur la gouvernance d'entreprise, les états financiers, le rapport sur la rémunération et le document d'enregistrement universel. Et ça comprend aussi, pour ceux qui en ont un, alors après ils ne sont pas nombreux, le rapport du système de management environnemental et d'audit d'entreprise qui est lié à la réglementation EMIS. Et enfin, l'autre notion clé, on lui a fait une slide, c'est la notion de double matérialité. C'est donc à travers ce filtre-là vous allez examiner quels standards s'appliquent, parce que surtout, quelles questions sont impactantes pour l'entreprise. Le principe de la double matérialité, c'est effectivement d'aller regarder d'une part quels sont les impacts des activités de l'entreprise sur l'environnement et la société. C'est ça qui est peut-être plus nouveau, même si c'était implicitement quand même dans la FRD déjà. Et puis, ce qu'on appelle plutôt la matérialité financière, c'est-à-dire les effets attendus de la durabilité sur la position financière de l'entreprise, ses résultats, ses flux de trésorerie. Ce filtre de matérialité, il s'applique à l'ensemble des informations, à l'exception des quatre grands types d'informations qu'on a dans le SRS2, gouvernance, stratégie, IRO, et puis gouvernance, stratégie, business model et IRO. Tous les autres standards en dehors de l'SRS2 sont soumis à une analyse de matérialité. Ça veut dire que si après avoir fait l'analyse en croisant l'importance que ça peut avoir, le risque, l'occurrence, la gravité, ça ne ressort pas comme étant important pour l'entreprise, ces autres thématiques n'ont pas, ces thématiques spécifiques n'ont pas à figurer dans le rapport de durabilité. La seule exception, c'est pour le SRS sur le climat, le E1, donc E pour environnement et 1, c'est le premier environnement. Si les informations sont jugées non matérielles, l'entreprise doit le justifier. Pour toutes les autres, elle n'a pas à justifier que dans son rapport, les thématiques ont été jugées non matérielles. Pour accompagner les entreprises, l'EFRAG a commencé de réaliser un guide sur la double matérialité avec des premières versions qui ont été disponibles en 2022. Et là, je vous ai remis le lien pour avoir la dernière version commune d'août 2023 diffusée par le prêt.
Émilie, peut-être un petit commentaire pour répondre à une question dans le chat. Vous comprenez bien que puisqu'il y a ce filtre de matérialité, on ne va pas vous dire un nombre d'indicateurs à produire pour ce reporting. Ça va dépendre vraiment de chaque entreprise et normalement, aucune entreprise ne devrait avoir à produire tous les indicateurs, puisque, sauf vraiment exception, on n'est jamais concerné par l'entièreté des problématiques couvertes par les différents standards.
Puis surtout, en plus, ça, à terme, en fonction de votre activité même, vous aurez différents sets sectoriels qui vont s'appliquer. Donc, c'est quasi impossible d'avoir une estimation du nombre de. Là, je vous ai mis la structure des ESRS thématiques. Donc toutes celles qui les 10 thématiques, donc en gouvernance, en environnement et en social. Une en gouvernance, 5 en environnement et 4 en social. Tous les standards commencent de la même façon en rappelant d'abord les objectifs du standard et puis son interaction avec les autres standards thématiques. Alors, à titre d'illustration, je pense que vous connaissez tous désormais le lien qu'on a entre biodiversité et climat. Bon, ça c'est très schématique, mais pour chaque ESRS, l'exercice est fait. Pour vous rappeler les liens entre les différents standards et y compris les liens avec le SRS2. Après cette sorte d'introduction, vous avez une première partie, alors qui s'appelle différemment, mais l'objet est toujours un petit peu le même, qui s'appelle gouvernance dans le SRS gouvernance, mais qui s'appelle stratégie en environnement social. En environnement et en social, on va avoir une première partie qui présente les plans de transition en environnement, alors uniquement en fait pour biodiversité et climat, et puis côté social, l'intérêt et le point de vue des parties prenantes. Et après, vous avez une partie sur les incidences, risques et opportunités dans ces thématiques-là, sur ces sujets-là, leur interaction avec la stratégie d'entreprise et le modèle économique. Et côté gouvernance, ils ont appelé ça gouvernance, mais ça pourrait être stratégie aussi, puisqu'il faut que dans cette partie-là, l'entreprise décrive le rôle des organes d'administration, de direction et de surveillance. Ensuite, vous avez une partie qui est là, à peu près commune à tous les ESRS thématiques, qui parle de la gestion des incidences, des risques et des opportunités. Pareil, vous avez une première partie qui va être, une sous-partie qui va être une procédure d'identification et d'évaluation des IRO. En social, on appelle processus d'interaction au sujet des incidences, mais qui finalement n'est pas très loin. Ensuite, l'entreprise va décrire les politiques qu'elle a adoptées sur ces thématiques-là. Puis après, en gros, c'est les actions et les ressources allouées qui vont prendre et puis les actions sur ces thématiques-là de l'entreprise et les ressources qu'elle y alloue, c'est son environnement, avec des variations un petit peu de dénomination, mais l'idée est un petit peu là. En gouvernance et en social. Et vous avez une partie finale sur la mesure de la performance de l'entreprise et les objectifs qu'elle se fixe, avec des métriques qui sont imposées dans tous les ESRS. Sauf en social, on a des métriques uniquement sur le S1, donc sur les travailleurs de l'entreprise. On a des cibles qui sont déterminées aussi ou des objectifs, si vous voulez, en environnement et en social. Et pour l'environnement, on a une partie spécifique sur les incidences financières escomptées. Okay. Après, vous avez un appendice qui va en fait détailler comment vous appliquez l'ensemble des exigences de publication, donc en stratégie, IRO et mesures de performance, en reprenant la même structure. Donc, pour vous donner un exemple, je vous ai collé le sommaire de l'ESRS sur la gouvernance. On retrouve bien donc ces trois parties en information générale à publier. Et vous voyez qu'après, l'intitulé, ça va dépendre des thématiques propres à l'ESRS. Donc, par exemple, dans les métriques et les cibles en gouvernance, on a les cas avérés de corruption, tout ce qui va concerner les métriques relatives aux activités de lobbying et de l'influence politique, et puis les pratiques en matière de paiement dans les métriques. Et puis après, donc, cette fameuse appendice A qui vient préciser les exigences de publication en reprenant la même structure que les exigences de publication. Pour que ce soit encore plus clair, je vais donner un exemple précis. Et là, j'ai changé. Bon, on a le choix, c'est l'avantage. Je vous ai pris l'exemple d'une métrique en S1. Donc, S1, c'est travailleur de l'entreprise. S1, c'est sur l'équilibre vie professionnelle et vie privée, donc des travailleurs de l'entreprise. À gauche, vous avez en fait les exigences de publication. Et vous voyez que sur cette thématique-là, en fait, ce qu'on nous demande d'indiquer, c'est dans quelle mesure les travailleurs ont droit à un congé familial et y ont recours. Et puis, dans les métriques, on vous demande le pourcentage de salariés ayant droit à des congés familiaux et le pourcentage de salariés concernés ayant pris un tel congé avec une ventilation par sexe. Vous avez à droite les précisions qui vous permettent justement de remplir, de satisfaire à vos exigences de publication. Donc, par exemple, on va définir ce que c'est que le congé maternité, le congé de paternité, le congé parental et le congé aidant. Puis, pour ne pas oublier, je vous l'ai mis là, quand on fait une recherche sur la S1.15, on trouve aussi dans l'annexe C de l'ESRS1 un dispositif d'entrée en vigueur graduelle, puisque comme les dispositifs sont compliqués à appliquer, certains entrent en vigueur progressivement, celui-là est un exemple, puisque la première année où vous réalisez le rapport, eh bien, l'entreprise, enfin, vous n'êtes pas obligé de fournir les informations sur le S1.15. Je regarde juste s'il y a des questions relatives. Les documents seront traduits en français. Alors, si la question s'adressait au guide EFRAG, c'est vrai que le guide EFRAG est en anglais. Je ne sais pas. Je ne sais pas si Karine, tu as la réponse.
Oui. Tout sera traduit. De toute façon, donc les standards sont traduits en français, puisque c'est un acte délégué de la Commission européenne, donc qui paraît dans toutes les langues de l'UE. Et les documents qui sont plus de la doctrine, qui seront préparés par les FRAG, le sont en anglais, mais de toute façon, il a déjà été décidé au niveau français que tout le matériel qui peut être utile pour appliquer cette directive et ce reporting sera traduit en français. Au niveau de l'autorité des normes comptables et du ministère, si nécessaire, si ce n'est pas fait au niveau européen.
Alors, sur la question de qu'entend-on par partie prenante, c'est effectivement les parties prenantes internes et externes, les deux. Donc, ça inclut les collaborateurs de l'entreprise, mais il y a vraiment des dispositions qui visent directement les collaborateurs de l'entreprise, que ce soit dans les indicateurs ou que ce soit aussi dans la phase, comme on va vous l'expliquer après, de consultation sur le rapport. Est-ce qu'on a la liste exhaustive des ensembles des exigences de publication? Oui, c'est l'acte délégué publié en français et je vous le lien quelque part dans le diaporama, j'en suis sûre, mais je ne sais plus où. Pourquoi? Alors, je finis juste les questions avant de poursuivre. Oui, en fait, le contenu du rapport, pour pouvoir faire le reporting, le rapport de durabilité, en fait, il dit le contenu du rapport est fixé par les ESRS. Donc, c'est pour ça qu'on applique les ESRS. Donc, c'est bon, je ne vous ai pas totalement perdu. Est-ce que Karine, tu veux reprendre la main sur ESRS sectoriel et PME?
Très bien. Donc, les ESRS sectoriels sont également une part obligatoire hein, du reporting. Donc, elles viennent compléter en fait les standards généraux qui s'appliquent à tout le monde, mais elles ne sont pas encore rédigées. Donc, c'est un travail qui est devant nous et auquel nous incitons fortement les entreprises à participer pour le ou les secteurs qui les concernent. Donc, ceux qui sont entourés de petits tirets bleus sont ceux qui sont en train d'être travaillés aujourd'hui. On sait qu'il y aura aussi le secteur financier qui sera dans les priorités de ces travaux. Et que progressivement, les 41 secteurs feront l'objet de normes sectorielles. Le but, c'est à la fois de bien lister les thèmes de reporting qui seraient normalement attendus en fonction du secteur, pour éviter d'en mettre trop dans les standards qui sont applicables à tous. Et de venir préciser en fonction du secteur les indicateurs les plus pertinents. Donc on craint quand même que ça rajoute beaucoup d'informations à produire, donc des travaux à suivre de près. Alors du côté des PME, on va retrouver les deux possibilités qu'on a évoquées au début. Soit on est une PME cotée, on doit obligatoirement produire un reporting de durabilité. Dans ce cas-là, on a un standard ESRS dédié pour les PME cotées qui est en cours d'élaboration. Ce standard va reprendre, vous le voyez sur la partie haute du petit schéma, les mêmes principes que ce que vous a décrit Émilie pour tout le monde, donc des principes généraux, des informations générales sur la stratégie, le business model, la gouvernance, pour bien comprendre comment on gère les impacts, risques et opportunités de durabilité, et une déclinaison dans les trois grands thèmes de l'ESG. Donc, on craint que ce standard soit finalement assez peu simplifié par rapport à ceux applicables à tous. Ce sera un standard unique néanmoins, donc ce sera quand même déjà plus facile à aborder que l'entièreté des standards ESRS, mais enfin quelque chose quand même d'assez lourd. Et puis, une deuxième norme qui, elle, est celle dont on a le plus parlé quand on s'est attardé sur la question des PME non concernées. Donc, une norme volontaire, beaucoup plus simple. L'objectif de l'Europe, c'est quand même de produire une norme volontaire que les gens aient envie de saisir. Donc là, on arrive un petit peu plus à être entendu sur la nécessité de faire quelque chose de simple et d'opérationnel. Mais enfin, le naturel revient vite chez le normalisateur, donc on va surveiller ça de près au niveau des consultations qui vont se lancer, donc probablement en décembre sur ce second projet. L'idée, c'est de faire différents modules et de permettre à une PME, selon son degré de maturité et sa taille, de trouver un niveau adapté à son besoin. Voilà, donc ça c'est vraiment sous toute réserve. Le projet de standard pour les PME volontaires pourrait contenir donc une sorte de premier module qui est un peu résumé là, dans la partie droite, environnement, social et gouvernance. L'idée serait de dire, finalement, c'est peut-être plus simple quand on est petit, qu'on nous dise, voici les 8 ou 10 indicateurs que vous devez produire, et puis vous n'avez pas besoin de vous projeter sur vos propres enjeux matériels. Vous donnez, donc là on voit, hein, votre consommation d'énergie, vos éventuelles pollutions, quelques informations sur vos salariés, accidents du travail, et voilà. C'est tout, vous produisez ces chiffres et on n'en parle plus. Ensuite, il y aurait un deuxième module qui viendrait s'ajouter, c'est la partie de gauche, pour celles qui sont un petit peu plus avancées, On rajouterait cette partie plus propre à l'entreprise où elle se questionne sur sa stratégie, son business model. Et puis un troisième module qui viendrait peut-être se rajouter qui serait plus tourné vers les besoins des financiers avec de nouveau une liste d'indicateurs à fournir qui n'est pas là sur la slide, mais c'est un petit peu l'idée qui est en débat aujourd'hui à l'EFRAG et sur laquelle on va être amené à se positionner dans la prochaine consultation. On vous a juste mis cette slide pour mémoire, pour vous rappeler que le reporting de durabilité comprend une autre obligation dont vous avez peut-être entendu parler, qui est de déclarer la part durable de ses activités. Donc là, on repasse hein, sur celles qui sont obligées de faire un reporting de durabilité, elles doivent aussi fournir des informations relatives à la taxonomie verte, c'est-à-dire dire par rapport à l'ensemble des activités classées vertes par cette taxonomie, est-ce que dans leur chiffre d'affaires, leurs investissements et leurs dépenses de fonctionnement, elles ont une part d'activité qui respecte les critères d'alignement de cette taxonomie. On va terminer maintenant avec une partie plus courte sur le contrôle et les sanctions. Donc, un aspect important de ce nouveau reporting de durabilité, c'est également sa robustesse sur le lieu de publication, la vérification. C'est pas nouveau en France, mais c'est un alignement pour l'ensemble de l'Europe. Le reporting de durabilité doit être dans le rapport de gestion et donc ça fixe un niveau de qualité qui est élevé. Comme il est dans le rapport de gestion, il devra être de toute façon rédigé en français. Il doit également être publié dans un format qui permet un traitement automatique des données. Donc, vous serez amené à le faire de manière électronique hein, pour que on puisse automatiquement venir extraire les données qui intéressent un lecteur. Et donc, ça veut dire que toutes celles qui sont visées par ce reporting de durabilité devront digitaliser leur rapport, quand bien même elles n'ont aucune obligation aujourd'hui de le faire pour leur rapport financier, cette obligation ne concernant pour le rapport financier que les sociétés cotées. Donc ça, c'est un outil qui s'appelle XBRL, qui n'est pas très très flexible. Et donc, ça peut être également un aspect à avoir bien en tête pour prévoir le chantier. Mais ça interviendra que dans un second temps. Donc, on a encore un peu de temps là-dessus. L'aspect le plus marquant dès qu'on commence à faire le reporting de durabilité, c'est le fait qu'il doit être vérifié par un tiers. C'est pas nouveau en France. Hein. La DPEF était déjà revue par un organisme tiers indépendant, mais c'est une généralisation, là encore, au niveau de toute l'Union européenne. Comme il y a des standards de reporting, néanmoins, maintenant, la mission du vérificateur est plus importante. Il y aura plus de matière à challenger, à discuter sur le contenu du reporting. Un point essentiel sur lequel on a beaucoup travaillé de la négociation de la directive, c'est que vous gardez un choix totalement ouvert pour ce vérificateur. Vous pouvez choisir de confier ça au commissaire aux comptes qui s'occupe de vos comptes financiers, un autre commissaire aux comptes ou bien un autre acteur, un organisme tiers indépendant. Ça peut être un bureau vérificateur, ça peut être il y a les experts comptables, les avocats qui ont fait savoir qu'ils étaient intéressés par ce nouveau marché. Il y a différentes professions donc, qui vont contribuer à développer l'offre de vérification qui représente également un coût à la fois en temps et en coût de la mission important pour ceux qui sont assujettis à ce reporting. Alors, je réponds tout de suite à la question du chat. S'il n'y a qu'au commissariat au compte, il n'y a pas d'obligation à ce stade d'avoir un co-commissariat pour le reporting de durabilité. Et la vérification est absolument obligatoire. Dès qu'on doit faire un reporting de durabilité, il doit être vérifié. Un dernier mot sur les sanctions, une question qu'on nous pose souvent. Donc formellement, il n'y a pas de sanctions directes. Il y a en revanche la possibilité pour un juge d'obliger à publier sous astreinte. Et puis, il y a des conséquences indirectes sur lesquelles on voulait attirer votre attention. On peut être exclu, par exemple, de la possibilité d'obtenir des marchés publics parce qu'on n'a pas satisfait à son obligation de publication. Ça, c'est une nouveauté du projet de loi Industrie verte qui arrive en phase finale. Et sur le transparent, mais vous le savez bien, il y a aussi un risque réputationnel évident. Il y a beaucoup d'attentes de plein de parties prenantes sur ce rapport. Voilà, nous sommes arrivés au terme de cette présentation. On vous a remis petite frise de temps à la fin qui reprend l'ensemble des montées en puissance, puisque c'est vrai qu'il y a un calendrier d'application à la fois du reporting lui-même, d'entrée en vigueur des différents standards. Émilie l'a dit rapidement, dans les standards eux-mêmes, il y a des mesures qui échelonnent un petit peu dans le temps les obligations de reporting pour les standards qui sont les plus, qui demandent le plus de travail, de mise en, de préparation de la part des entreprises. Certains bénéficient d'un délai d'un an, d'autres de 2 ans. Donc voilà, ça va monter en puissance au fur et à mesure des années. Et c'est ce que montre bien
Et puis ça montre aussi que on a quand même un peu de temps et que vous êtes là pour surtout pour les adhérents du MEDEF là aujourd'hui on a ouvert cette session. Vous avez souhaité faire une présentation assez large du dispositif, mais il y aura un accompagnement spécifique aussi pour les adhérents du MEDEF et on a un peu de temps pour mettre tout ça en place, quoi.
Exactement, pour essayer de produire des guides d'application le plus utile possible pour les plus petites, des grandes, celles qui vont être obligées mais qui ne sont pas forcément très outillées. Il faut bien utiliser toutes les possibilités de proportionnalité. Elles sont à la fois au niveau de la directive et des standards. On a rappelé, il faut d'abord qu'un enjeu soit matériel pour qu'il donne lieu à une obligation d'information. Donc, bien essayer de toujours se recentrer sur ce qui est vraiment clé pour éviter de se lancer dans des grands exercices consommateurs de temps et
Juste, je rappelle que pour les adhérents du MEDEF, justement, vous avez accès au replay organisé par l'ANC pour présenter en 3 sessions les ESRS. Donc, ça va être mis sur l'intranet pour les adhérents du MEDEF. Et toujours pour les adhérents du MEDEF, on organise un groupe dédié au PME, justement. Donc, n'hésitez pas à rejoindre ce groupe si vous êtes une PME adhérente du réseau MEDEF, ce sera avec plaisir qu'on vous accueillera.
On a quelques questions, même si on a répondu quand même à la plupart au fur et à mesure, notamment sur qui est concerné et avec deux questions sur les filiales de groupes étrangers. Pour les grandes entreprises étrangères, il faut que le rapport de la Corp réponde bien aux standards UE pour couvrir la filiale.
Alors, effectivement, les filiales de groupes étrangers sont concernées. Elles le seront très tardivement, l'an dernier, et notamment pour laisser le temps à l'EFRAG et à la Commission de préparer des standards qui leur seront dédiés, qui seront plus ramassés hein, que ceux applicables à tous. Et puis, il y a un mécanisme qui permet également de voir si d'autres normes de reporting pourraient être jugées équivalentes. Donc, si la mère étrangère publiait, par exemple, dans un référentiel d'un autre pays, mais qui soit relativement comparable en termes de thèmes couverts et de façon de faire le rapport, alors peut-être qu'effectivement, ça permettrait de répondre.
PME non cotée, mais si elle appartient à un groupe mère, est-elle concernée par cette obligation?
Oui, donc effectivement, toutes les filiales sont concernées pour leur groupe en fait. Hein. L'obligation, c'est de publier un rapport groupe. Et donc, il y a une remontée d'informations entre la fille et la mère pour contribuer au rapport du groupe. Bien sûr, plus on est petit dans un grand groupe et moins on aura probablement contribué.
La vérification est obligatoire, mais pas forcément l'appel à un COCAC.
C'est ça.
Et
Un seul vérificateur à ce stade suffit.
donc est-ce que il y a des précisions à donner sur quel type de vérificateur est nécessaire
Alors le projet de transposition de la directive est encore en cours, donc on n'a que des orientations sur comment ça se passera. Ce qu'on peut retenir, c'est que globalement, les règles sont très alignées sur celles du commissariat aux comptes. On va signer pour un mandat, on devra inviter le vérificateur au conseil d'administration quand il traite de ce reporting, il va y mettre un rapport à la fin. Enfin, c'est très très comparable, avec quand même quelques simplifications pour rendre cet exercice pas trop lourd, notamment pas de co-commissariat au compte à ce stade. Et puis, il s'agit d'une vérification plus limitée que ce qui est fait sur les comptes, au moins dans un premier temps.
au moins dans un premier temps. Justement, c'est une belle transition avec le commentaire qu'on voit apparaître là. Il faudrait en moyenne 1 an et demi pour se conformer à la CSRD entre la phase 1 de lancement avec audit et analyse, double matérialité et consolidation des données. Donc, pour les entreprises concernées à partir de 2025, il est conseillé d'entamer cette démarche d'ici la fin de l'année, sauf que tout n'est pas prêt du côté de l'EFRAG.
Oui, de plus en plus. Même d'ici la fin de l'année, on devrait avoir quand même. Par contre, ce qui est vrai, c'est qu'on n'a pas encore les standards sectoriels, mais ils s'appliquent pas de manière obligatoire avant plusieurs années, hein, puisqu'il va falloir le temps de les produire, puis qu'ils entrent en application.
Mais je suppose que le MEDEF veillera à ce qu'il y ait une certaine souplesse au moins au début et que avant la punition, il puisse y avoir quand même un accompagnement
Oui, tout à fait. On a été notamment auditionné par le superviseur des auditeurs, qui lui va vérifier comment les auditeurs ont vérifié nos rapports. Et on a beaucoup insisté sur le fait qu'il va y avoir un temps d'appropriation important. Et aussi bien donc le superviseur de l'audit que l'autorité des marchés financiers sont très très conscients de cette courbe d'apprentissage. Et estime que ce serait pas très utile de tomber tout de suite sur l'ensemble des parties prenantes, aussi bien préparateur du reporting que vérificateur, mais bien d'instaurer une démarche de progrès.
Un grand merci, vraiment. Ce type de rencontre, c'est très utile.
C'était un podcast de l'Académie. Nous tenons à remercier les collaborateurs du MEDEF qui ont œuvré à sa réalisation, ainsi que l'ensemble des intervenants. Retrouvez de nombreux autres enregistrements sur le site l'académiemedef.fr. Merci pour votre écoute et votre fidélité.